Merci. Je vais parler ce matin, je crois que la matinée est divisée en deux avec une pause vers 11h si j'ai bien compris. Je vais faire mon intervention en deux parties et à chaque fois je laisserai du temps pour des questions à la fois sur ce que j'ai dit et puis sur le programme et les parties du programme qui sont liées à ce que je dis, puisqu'évidemment il y a pas mal de choses dans le programme qu'on peut relier d'une manière ou d'une autre à la crise actuelle. Alors, je vous rappelle d'abord le contexte immédiat. Le contexte immédiat, c'est évidemment, on peut dire depuis quelques jours, une sorte d'accalmie. Tout d'un coup, tout va bien. Les marchés boursiers sont en hausse, les taux d'intérêt sont en baisse, les États européens financent sans difficulté des programmes de dette absolument colossaux. Vous savez qu'on doit refinancer cette année plusieurs centaines de milliards d'euros de dette publique dans la zone euro, que pour l'instant les programmes sont en avance sur le calendrier, que les différents États, qu'il s'agisse de l'Espagne, de l'Italie, arrivent à financer sans difficulté, à des taux d'intérêt plus bas qu'il y a quelques mois, etc. Donc on a le sentiment finalement que c'est fini, que c'est derrière nous. Une fois de plus, c'est remarqué, puisque ça fait déjà plusieurs fois depuis le début de la crise que on nous annonce qu'elle est fini. En même temps, évidemment, il n'a échappé à personne que nous sommes en récession, à la fois presque en récession en France et en récession dans la zone euro en général. 2012 devrait voir une croissance légèrement négative en moyenne pour l'ensemble de la zone euro. En France, très proche de zéro, semble-t-il. On ne sait pas exactement combien, c'est toujours très difficile à dire, mais enfin, en tout cas, si on fait abstraction de l'épaisseur du trait de plume, on peut dire zéro, à peu près. Et puis, un certain nombre de pays de la zone euro sont, eux, en récession extrêmement forte. C'est le cas notamment des pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire essentiellement donc, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais aussi l'Italie. Dans le cas des trois premiers, Grèce, Portugal, Espagne, la récession est beaucoup plus profonde que la moyenne. En Grèce, c'est maintenant la quatrième année consécutive de contraction du PIB. Et par ailleurs, comme chacun sait, on a aussi des taux de chômage qui sont en hausse très forte dans tous les pays de la zone euro. Et cette situation contraste, alors bon, sur les taux de chômage, je vais y revenir tout à l'heure, enfin, en gros, comme vous savez, la moyenne dans la zone euro est à peu près 10% actuellement, avec des écarts assez importants entre les différents pays, puisque certains pays comme l'Allemagne ont des taux de chômage actuellement autour de 7, un peu plus que 7%, alors que d'autres comme l'Espagne ou la Grèce ont des taux de chômage voisins ou supérieurs à 20%. Dans le cas de l'Espagne, supérieur à 20%, et on s'attend d'ailleurs à ce qu'à la fin 2012, le taux de chômage en Espagne approche de 25%, ce qui serait évidemment une sorte de record dans l'économie européenne de l'après-guerre, des niveaux donc qu'on n'a pas vus depuis les années 30. En Grèce également, le taux de chômage est voisin de 20% actuellement, et en augmentation aussi. En France aussi, comme vous le savez, le taux de chômage augmente actuellement. Alors, cette situation contraste quand même assez fortement avec celle qu'on observe dans le reste du monde, même si la situation n'est pas également brillante partout ailleurs. Dans l'ensemble, quand même, la croissance reste relativement soutenue ailleurs dans le monde, et notamment, évidemment, dans les pays émergents. Certes, certains pays émergents connaissent un ralentissement, c'est le cas notamment un peu de la Chine et de manière un peu plus marquée de l'Inde, mais néanmoins les taux de croissance sont encore extrêmement positifs, puisqu'ils sont en Inde, il est autour de 6,5% prévu pour 2012, en Chine un peu moins de 9%, ce qui évidemment pour la Chine est peu, mais bon. Alors, il faut rappeler aussi, bien entendu, quand même pour relativiser tout ça, qu'il s'agit de taux de croissance du PIB total et non pas du PIB par tête de ces pays, évidemment, à la différence des pays européens, ont des populations qui augmentent très rapidement. Donc, évidemment, lorsque on regarde le PIB par tête, les écarts sont évidemment bien moindres que sur le PIB global. Mais même si on compare la situation de l'Europe avec celle des États-Unis, on est frappé de voir que, même si aux États-Unis les performances ne sont pas extraordinaires, néanmoins, la croissance aux États-Unis en 2011 était voisine de 3%, en 2012, elle est prévue à plus de 2% encore, et donc quand même très nettement au-dessus de la croissance européenne. Et on retrouve quelque chose qu'on a vu, qu'on a observé à peu près à chaque crise depuis maintenant deux ou trois décennies, c'est-à-dire que les crises ont leur origine la plupart du temps aux États-Unis, et je vais y revenir tout à l'heure. Elles sont plus graves en Europe qu'aux États-Unis, et elles durent plus longtemps en Europe qu'aux États-Unis. Donc il y a une espèce de régularité empirique depuis maintenant pratiquement trois décennies. Les sorties de crise en Europe sont extrêmement lentes, extrêmement longues, et là on a même franchement une rechute. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, je vais commencer donc par parler un peu de la nature de la crise globale en général, pour rappeler un certain nombre de caractéristiques qui permettent de mieux comprendre, me semble-t-il, pourquoi aujourd'hui l'Europe est dans la situation où elle est. Alors j'ai mis ce titre un peu provocant, qui est le titre que j'avais donné il y a presque deux ans maintenant, à un article que j'avais publié au mois de juin. Juin 2010, juste au moment de la première crise grecque, on va dire, puisque le début de la crise des finances publiques européennes, vous vous en souvenez peut-être, c'est mai 2010, au moment où on commence à s'inquiéter sérieusement de la solvabilité d'abord de la Grèce et puis ensuite, évidemment, comme on le verra, de la plupart des pays, des gouvernements, des pays membres de la zone euro. Donc, bon, le titre, cet article est disponible sur le site de l'OFCE. Évidemment, je vais en profiter pour faire de la pub pour nos publications. Je vous signale d'ailleurs à ce propos que désormais toutes les publications de l'OFCE sont en accès libre sur le site de l'OFCE. Et donc, il n'y a plus d'abonnement, d'achat, etc., etc. On peut acheter si on veut, mais on n'est pas obligé. Voilà, ce qui est quand même une nouveauté intéressante de ceci depuis le 1er janvier 2012, et que l'OFCE a aussi mis en place un blog sur lequel nous mettons de manière assez régulière des éclairages sur différents aspects à la fois de la crise globale et puis des choix de politique économique qui sont faits en France et dans la zone euro, et qui renvoie généralement donc à d'autres travaux un peu plus poussés, etc. Donc c'est un peu sur tout ça que je vais m'appuyer, notamment aussi bien sûr sur un article de mes collègues, et notamment, enfin plusieurs articles de mes collègues, mais notamment un article de Xavier Timbaud qui est paru sur le blog de l'OFCE en décembre dernier, qui s'appelle « La très grande récession ». Donc je vais aussi puiser dans les travaux de l'autre département, puisque je dirige moi-même le département des études et que l'autre département, c'est analyse et prévision qui fait justement les prévisions. L'idée à l'époque, quand j'ai écrit cet article avec Éloi Laurent en juin 2010, c'était finalement de s'interroger sur les voies de sortie de cette crise des finances publiques en Europe, et pour ça d'essayer de revenir sur les causes spécifiquement européennes et puis les causes un peu plus larges. C'était aussi un clin d'œil, puisqu'après tout on avait fêté un an et demi plus tôt, on va dire, les 10 ans de la création de la zone euro. Je vous rappelle, c'était l'euro a été lancé en 1999, donc les 10 ans, juste une petite parenthèse à ce propos d'ailleurs, en 2012, certains fêtent les 10 ans de l'euro, ce qui est tout à fait inapproprié, puisque l'euro existait depuis 1999. C'est seulement la mise en circulation des signes monétaires qui date de janvier 2002, mais la zone euro elle-même, évidemment, date de janvier 1999. Donc en 2009, l'Europe a fêté de manière assez enthousiaste et optimiste les 10 ans de l'euro. On avait presque le sentiment qu'à part cette récession qui était finalement juste en train de poindre, je vous rappelle, janvier 2009, c'est juste quelques mois après la chute de Lehman Brothers, la banque américaine dont la faillite a déclenché finalement le processus cumulatif dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui. Donc en janvier 1999, au fond, les dirigeants européens avaient le sentiment, comme d'habitude d'ailleurs, que cette crise était essentiellement une crise européenne, américaine, qu'elle ne concernait pas vraiment l'Europe. On rappelle aussi que à l'automne 2008, les déclarations des différents dirigeants, et notamment du président Sarkozy, qui à l'époque était donc assurait la présidence tournante de l'Union européenne, consistait à dire finalement les banques européennes, et notamment les banques françaises, sont solides, elles ne sont pas concernées ou de manière très marginale par les problèmes, les excès, les turpitudes qui ont caractérisé le système bancaire américain. Et donc on a effectivement un problème de répercussion de la crise financière américaine sur les marchés boursiers européens et sur la confiance dans les banques, mais tout ceci n'est que passager et ne devrait pas produire d'effets dommageables durables sur l'économie européenne. Bon, évidemment, comme vous le savez, ce qui s'est passé par la suite a un peu démenti tout ça, mais si vous relisez quand même les textes et les discours qui ont été prononcés, publiés au moment du 10e anniversaire de la zone euro, c'est intéressant quand même de voir que tout le monde était très optimiste, tout le monde pensait que l'euro était un grand succès et qu'il nous avait armés, notamment pour résister. C'était une sorte de bouclier contre les chocs extérieurs, etc. etc. Bon. Et c'est donc dans ce contexte-là, presque deux ans après, au fond, c'était un clin d'œil pour dire la crise d'adolescence, finalement, de la zone euro, adolescence un peu précoce, il est vrai, puisqu'à 11 ans et demi, mais après tout, les adolescences sont de plus en plus précoces, semble-t-il, donc pourquoi pas celle de l'euro aussi. Et donc, c'était aussi l'idée qu'après tout, comme toute crise d'adolescence, ça peut être difficile, violent, etc., mais que peut-être on en sortira plus fort, ou peut-être pas, ça dépend. Donc c'était aussi ça, d'essayer de voir, je dirais la deuxième partie, avec quelle politique on peut espérer en sortir plus fort. Donc voilà, alors par ailleurs, je vous signale aussi, comme vous l'avez remarqué, que dans le même temps, la monnaie européenne s'est quand même un peu dépréciée depuis quelques mois. Vous savez qu'on est aujourd'hui autour de 1,30€ pour le dollar, donc 1,30€ par euro. Donc bon, c'est plus bas, sensiblement plus bas que les points hauts atteints en 2010 et début 2011, mais ça reste quand même très supérieur au niveau qu'il avait lors de son lancement. Ça reste encore très proche en fait des niveaux historiques qu'on peut reconstituer si on recalcule, si on rétropole finalement la valeur de l'euro fictif avant son lancement en prenant les mêmes pondérations pour les monnaies constitutives et en reconstituant, on s'aperçoit qu'on est à peu près au niveau où nous étions, où les monnaies européennes se trouvaient par rapport au dollar au tout début des années 80, c'est-à-dire avant la grande appréciation du dollar entre 81 et 85, donc à un niveau historiquement élevé. Alors on va dire que la dépréciation qu'on a observée depuis quelques temps et que certains interprètent comme un signe de faiblesse n'est évidemment pas, du point de vue de la zone euro, une mauvaise nouvelle, au contraire, puisque si on raisonne en termes de décalage conjoncturel par rapport aux autres zones du monde, on se dit, étant donné que l'euro est plus plutôt, la zone euro est plutôt en récession, alors que les autres pays du monde sont plutôt en phase encore d'expansion. Le fait que l'euro se déprécie permet de compenser finalement la faiblesse de la demande interne par, disons, une stimulation de la demande externe. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, parce que du point de vue de la répartition de cette, des effets de cette dépréciation à l'intérieur de la zone euro, ça n'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus. Bon, d'autre part, on voit bien que depuis maintenant 2 ans pratiquement, les dirigeants européens ont beaucoup de mal à faire émerger une gouvernance économique. On a vu il y a quelques semaines l'adoption, la signature de 2 nouveaux traités, un traité instituant le mécanisme européen de stabilité, qui va prendre, j'y reviendrai tout à l'heure, la place du fonds de stabilité, et puis le traité qu'on appelle Fiscal Compact, qui est donc une espèce de, on va dire, remake un peu renforcé du pacte de stabilité, et le fameux traité donc, que certains voudraient voir renégocier prochainement, et qui en tout cas, pour l'instant, n'est que signé, et apparemment pas très près d'être ratifié, pas seulement en France, mais aussi dans un certain nombre d'autres pays européens. Donc je reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie sur les problèmes que pose la mise en place d'une gouvernance économique plus efficace et plus performante. Sur la fragilité, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est d'abord donc, pour parler un peu de la crise globale et de ses causes, avant de venir à la question européenne, c'est d'insister sur le fait que au départ, et comme presque toujours d'ailleurs, la crise globale est une crise de surendettement. C'est-à-dire que le facteur déclencheur, comme toujours, c'est un problème de surendettement. Et ça, déjà, c'est une difficulté pour la théorie macroéconomique standard, je dirais, puisque, comme vous le savez, dans la théorie macroéconomique standard, généralement, on explique les fluctuations de la croissance par les chocs externes ou des chocs exogènes au système. Donc habituellement, si vous voulez, la manière dont on représente l'instabilité de la croissance et les fluctuations de l'activité, c'est par une représentation de l'économie que j'appelle parfois l'économie newtonienne, la vision newtonienne de l'économie, c'est-à-dire l'économie comme une espèce de pendule, si vous voulez, qui serait à l'équilibre en l'absence de chocs exogènes qui viennent perturber cette situation d'équilibre. Alors j'insiste un peu là-dessus parce que on verra que dans le cadre de la nouvelle gouvernance européenne qu'on est en train de mettre en place, cette notion de l'équilibre sous-jacent de l'économie traduite en dynamique par la croissance potentielle est intégrée dans les nouvelles règles. Ça pose problème parce que, évidemment, ça suppose quand même une certaine foi dans cette représentation de l'économie, foi que l'on n'est pas obligé de partager. En réalité, j'y reviendrai, parce que, empiriquement, évidemment, même si c'est une représentation commode, ça n'est pas très opératoire, on va dire. Donc, ici, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que, à la différence de certaines autres récessions dont on peut clairement identifier l'origine dans des chocs, soit des chocs externes de type choc pétrolier, soit des chocs de politique monétaire ou de politique budgétaire, qui sont eux aussi exogènes d'une certaine façon, eh bien celle-ci, on peut dire, est quand même difficilement explicable par dans le cadre habituel de la macroéconomie, au point même d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, que juste avant cette crise en 2007 même, quelques mois avant le déclenchement de la crise, Olivier Blanchard, qui est l'économiste en chef du FMI et un macroéconomiste très connu et très respecté, avait publié un papier qui s'appelait « L'état de la macroéconomie », dans lequel ils disaient, ben, au fond, ça y est, on a tout compris, ça y est, on est capable d'expliquer le fonctionnement de la macroéconomie et de la gérer d'une manière assez satisfaisante. On sortait d'une période assez longue qu'on a appelée la période de grande modération, dans laquelle, il faut le rappeler, la croissance économique mondiale avait été la plus forte jamais enregistrée dans l'histoire, quand même, entre 2000 et 2007. La plus forte en moyenne jamais enregistrée depuis qu'on sait mesurer la croissance, et même quand on rétropole, évidemment. Si on regarde les travaux de Madison ou autres, on s'aperçoit qu'évidemment, il n'y a pas de précédent. Une croissance extraordinairement forte jusqu'à 2007, un peu partout dans le monde, et puis aussi une inflation extrêmement basse. Et c'est ça qu'on a appelé la grande modération, dans laquelle on avait cette conjonction tout à fait extraordinaire et presque miraculeuse entre un dynamisme économique mondial absolument sans précédent et puis une inflation qui restait extrêmement basse, pas de signe d'accélération, rien du tout. Et c'est ça qu'on a appelé la grande modération. Alors derrière tout ça, évidemment, quelque chose qu'on n'avait pas bien saisi et qui constitue ce que j'appellerais plutôt un choc endogène et pas exogène, c'est la finance et les évolutions de la finance et de la banque qui se déroulait en parallèle. Alors, juste pour revenir sur les chocs exogènes et des récessions précédentes, on peut donner deux exemples. On peut, par exemple, la récession de 73-74, clairement, c'est une récession qui, 74-64 plutôt en Europe, c'est une récession qui résulte d'un choc pétrolier qui est assez largement exogène, même si évidemment on peut toujours considérer que le choc pétrolier lui-même était lié à une augmentation progressive de la demande mondiale de pétrole qui elle-même engendrait une tension sur le marché du pétrole, etc. etc. Sauf que, quand même, il y avait des événements politiques très clairs qui ont déclenché tout ça, et ce n'était pas purement un phénomène endogène. Bon, et si on veut donner un exemple de la deuxième catégorie de chocs exogènes, c'est-à-dire des chocs de politique économique entraînant une récession, il y a un exemple très clair qui est le cas de la récession de 93-94 en Europe. En 93-94, l'Europe a traversé une récession très grave, qu'on appelait déjà à l'époque la plus grave depuis la Grande Dépression, mais comme depuis on a fait pire, évidemment. On ne peut plus l'appeler comme ça, mais je vous rappelle quand même qu'en 93-94, l'Europe a plongé toute seule dans la récession. Il n'y a pas eu de récession ailleurs dans le monde. Et c'est une récession qu'on a faite toute seule aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment la politique monétaire des banques centrales qui a engendré la récession de 93-94. Alors ensuite, on pourra toujours nous expliquer que c'est évidemment suite à l'unification allemande qui elle-même avait engendré un surcroît d'inflation en Allemagne, que les banques centrales avaient, à la suite de la Bundesbank, décidé de durcir les politiques monétaires, mais il n'empêche que là, on a bien une récession qui est causée par un choc de politique macroéconomique, en l'occurrence un choc de politique monétaire. Alors, cette fois, dans le cas de la récession qui s'est déclenchée en 2008, on peut dire que, à la différence de ces exemples précédents, le principal facteur, me semble-t-il, c'est le surendettement. Alors, ce surendettement, je vais y revenir tout à l'heure, évidemment, a ensuite des conséquences en termes de désajustement entre l'offre et la demande, bien sûr. Donc on peut aussi raconter une histoire en termes de demande insuffisante, en termes d'épargne excédentaire ou en termes de surcapacité, hein, puisque tout ça, évidemment, est cohérent avec le surendettement initial. Alors sur le surendettement, je voulais juste indiquer un peu la situation, parce que c'est quand même intéressant d'abord de voir quelle était la situation au moment de la récession, c'est-à-dire ici j'ai pris l'année 2009, hein, c'est l'endettement brut, bon c'est en anglais, mais enfin c'est pas très compliqué. Donc vous avez en fait en pourcentage du PIB les stocks de dette brute des différents secteurs résidents de chacune des économies qui sont listés ici. Donc vous avez les pays de la zone euro et puis le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis à titre de comparaison. Et là, vous avez les ménages, les entreprises financières, les entreprises non financières, la dette du secteur financier à l'égard de l'ensemble du monde, et puis la dette publique, à peu près la dette publique au sens de Maastricht, plus ou moins. Ce que je voulais souligner là-dedans, c'est que, évidemment, au début de la crise, vous voyez que la situation des finances publiques est très différente selon les pays. Là, on est déjà à un an après le déclenchement de la récession, un peu plus d'un an, donc on a déjà des stocks de dette publique ici sur cette colonne qui sont plus élevés qu'avant la crise, mais qui restent encore, vous voyez, en Allemagne 73%, en France 78%, en Irlande 64%, au Royaume-Uni 68%, etc. Et à part le Japon, l'Italie et la Grèce, aucun des pays n'a un stock de dette publique supérieur à 100% de son PIB à la fin 2009. En revanche, quand on regarde les dettes des ménages notamment et les différents secteurs résidents, on s'aperçoit qu'il y a des différences tout à fait considérables et que dans certains pays, l'endettement, notamment des secteurs non financiers, c'est-à-dire ménages et entreprises non financières, est très élevé. Et là, je voulais souligner la situation notamment des pays anglo-saxons. On voit bien, les États-Unis, c'est 95% du PIB, le Royaume-Uni 103% du PIB, l'Irlande 107% du PIB, et pas loin derrière, vous avez quand même le Portugal et l'Espagne, dont les niveaux d'endettement des ménages sont extrêmement élevés aussi. Et quand on regarde les entreprises non financières, on voit aussi que les taux d'endettement au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, mais aussi en Belgique, sont très élevés. Alors qu'à l'inverse, dans les pays, dans d'autres pays de la zone euro, notamment, les taux d'endettement des ménages sont relativement faibles. Vous voyez, pour la moyenne de la zone euro, on a 65% du PIB. Si on regarde la France, c'est 52% pour les ménages. L'Allemagne, 63%. L'Italie, 41%. La Grèce, 50%. Donc les taux d'endettement des ménages relativement faibles. Et du côté des entreprises non financières, on retrouve quelque chose de similaire. Si on regarde maintenant le stock total de dette brute des agents résidents de chaque pays, on voit qu'il y a quand même quelques pays dont on pouvait imaginer déjà à l'époque qu'ils étaient particulièrement vulnérables. C'est le cas notamment, évidemment, du Japon, d'une certaine façon, mais c'est le cas aussi des États-Unis avec 350%, le Royaume-Uni 529% du PIB, l'Irlande, bon, c'est carrément 870% du PIB, ça c'est l'hypertrophie du secteur financier irlandais et ses dettes à l'égard du reste du monde. Et qui montre bien que l'Irlande, évidemment, avait, dans la période antérieure, une croissance qu'on pourrait appeler un peu artificielle, mais aussi, donc, vous voyez, l'Espagne et le Portugal, alors que là aussi, la France et l'Allemagne sont dans des situations finalement très voisines. Quand on regarde le stock d'endettement total de l'ensemble des secteurs résidents, vous voyez que dans le cas de la France, on a 281, dans le cas de l'Allemagne, 280, donc c'est vraiment tout à fait similaire. Et donc, on voit bien, à la lumière de tous ces chiffres, que quand même, au début de la crise, et même un an après le déclenchement de la crise, la France et l'Allemagne sont finalement dans des situations, en tout cas du point de vue des bilans, relativement voisines, même si la répartition à l'intérieur est un peu différente d'un pays à l'autre, mais qu'il n'y a pas, disons, un décrochage ou une espèce de dérive française du surendettement que l'on dénonce parfois. Alors, pourquoi j'insiste sur l'endettement, notamment sur le surendettement du secteur privé? Eh bien, parce qu'évidemment, dans la suite de la crise, le désendettement va être en fait le moteur, finalement, de la contraction. Au fond, si on a une crise de surendettement, il est évident que par la suite, les différents agents essayant de se désendetter vont engendrer des phénomènes que Irving Fisher avait déjà bien décrit au début des années 30 dans son fameux article qui s'appelle « Debt deflation », c'est-à-dire la déflation par la dette, la déflation de la dette en peut traduire des deux manières, parce que finalement, déflation, ça veut dire dégonfler, donc c'est aussi le dégonflement de la dette. Alors, ça va être très important pour bien comprendre. Mais avant d'aller dans les conséquences de ce surendettement, je voudrais quand même rappeler brièvement d'où provient ce surendettement, quelles sont ses causes. Alors évidemment, les causes sont multiples. Certains analystes ont mis l'accent sur le surendettement des ménages, d'autres sur celui des entreprises. Mais dans tous les cas, on retrouve finalement deux facteurs qui sont présents dans les causes. Le premier, c'est une surestimation des capacités de remboursement futures qui fait qu'on a recours à la dette. Alors cette surestimation, elle peut être le fait des agents économiques eux-mêmes ou elle peut être le fait des banquiers qui octroient les prêts. Hein. L'exemple classique et le plus clair de cette surestimation, c'est évidemment le cas des subprimes américains, dans lequel vous avez un secteur bancaire aux États-Unis qui décide à partir de 2003 ou 2004 d'accorder des crédits immobiliers à une catégorie de ménages qu'on appelle donc subprime, c'est-à-dire qui sont d'une qualité, qualité en termes de qualité de signature, si vous voulez, d'une qualité inférieure à la qualité prime, hein, c'est comme pour le jus d'orange, hein, le premium c'est le meilleur, en dessous c'est le subprimium, bien pour les emprunteurs c'est la même chose. Vous avez donc une catégorie d'emprunteurs qui en principe ne devrait pas pouvoir accéder au crédit immobilier pour accéder donc à la propriété individuelle de leur logement parce que leurs revenus sont insuffisants pour garantir les remboursements et les banques, encouragées en cela par l'État fédéral américain d'ailleurs, et par les grandes institutions de prêts hypothécaires aux États-Unis que sont Freddie Mac et Fannie Mae et Freddie Mac, qui ont fait faillite, comme vous le savez depuis. Donc, les banques ont décidé de prêter à cette catégorie de ménage en faisant le pari, qui évidemment pendant longtemps s'est avéré finalement un bon pari, mais seulement pendant quelques années, que la hausse des prix de l'immobilier permettait finalement de limiter les risques. Et là, c'est quelque chose d'assez important parce que dans tous les phénomènes de surendettement, on retrouve la même chose, c'est-à-dire une surévaluation de l'actif qui sert de collatéral à la dette, hein, c'est-à-dire qui sert de garantie. Ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on trouve à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Dans le cas des ménages, c'est évidemment la hausse des prix de l'immobilier qui permet finalement aux banques de se prémunir contre les risques de non-remboursement, puisque la banque sait qu'en cas de non-remboursement, elle va pouvoir faire jouer l'hypothèque et donc saisir le bien immobilier qui vaut plus qu'au moment où, en principe, qu'au moment où elle a accordé le crédit, et donc elle ne perd pas, elle-même elle peut gagner. Donc, on a ce phénomène-là. Et dans le cas des entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a, du fait de l'évolution des marchés boursiers, une valeur des fonds propres qui augmente et qui permet aux entreprises de s'endetter. Alors dans le cas des ménages, ce qui est intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'interaction entre les banques et le crédit bancaire d'une part et les marchés d'actifs d'autre part est une interaction qui engendre des dynamiques instables. Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en évidence par Minsky, par exemple, et puis qui avait été décrit d'une façon un petit peu moins rigoureuse mais tout aussi intéressante par des gens comme Galbraith notamment dans son petit bouquin sur la crise de 1929 ou d'ailleurs dans d'autres ouvrages de Galbraith. Et puis Kindleberger aussi d'ailleurs d'une certaine façon. Donc l'interaction entre le crédit bancaire et la dynamique de prix sur les marchés d'actifs est cumulative. Et donc on a quelque chose qui engendre de l'instabilité, hein, par nature en fait. Hein. c'est l'instabilité, disons, d'une économie dans laquelle vous avez à la fois des banques, du crédit bancaire et des marchés d'actifs. Alors sur le marché de l'immobilier, c'est assez clair, c'est assez facile à comprendre, puisque les banques prennent comme garantie hypothécaire pour les crédits qu'elles accordent les biens immobiliers, et donc elles valorisent dans leur bilan la garantie au prix de marché des biens. Alors ceci d'ailleurs, entre parenthèses, indique aussi que les règles comptables sont extrêmement importantes et que donc l'adoption généralisée à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, de ce qu'on a appelé le mark to market, c'est-à-dire de valoriser dans les comptabilités de tous les agents économiques, entreprises non financières et surtout entreprises financières, valoriser tous les éléments d'actifs et passifs à leur valeur de marché, ceci évidemment engendre, si vous voulez, un surcroît d'instabilité, hein, puisque tout va bouger en même temps, en quelque sorte. Je ne suis pas en train de dire que la comptabilité en valeur historique est forcément une bonne solution. Ce que je dis, c'est qu'avoir une comptabilité qui est toute en valeur de marché accroît les risques d'instabilité. Alors, donc, on a ce caractère auto-renforcé des évolutions. Et à ce propos, donc, je voulais revenir là-dessus, sur le fait que, enfin, pas ici, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà dit lors du stage national l'année dernière, que l'augmentation des prix de l'immobilier, de ce point de vue-là, est quelque chose de tout à fait trompeur. Parce que, évidemment, lorsqu'on regarde le secteur des ménages dans son ensemble et qu'on mesure le patrimoine, la valeur du patrimoine des ménages, on s'aperçoit que lorsque les prix d'immobilier augmentent, évidemment la valeur du patrimoine des ménages augmente et même rapportée aux revenus. Et d'ailleurs, il y a des travaux récents, notamment de Atkinson et Piketty, etc., qui montrent que ces dernières années, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Italie aussi d'ailleurs, le ratio patrimoine des ménages sur revenus, soit le PIB, soit le revenu disponible brut des ménages, a augmenté considérablement. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire, bon, ben voilà, les ménages sont de plus en plus riches, notamment parce que la valeur de leur patrimoine immobilier a augmenté. Mais en même temps, cet enrichissement collectif des ménages est générateur d'une illusion de richesse individuelle, c'est-à-dire que chaque ménage se sent plus riche parce que la valeur de son logement a augmenté, alors qu'en réalité, il n'est pas plus riche, c'est simplement le prix relatif des services du logement qui a augmenté, en fait. C'est-à-dire qu'il faut désormais, si on veut se procurer un certain niveau de service de logement, consacrer une part plus importante de son revenu l'acquisition de ce service du logement. Et la meilleure preuve, c'est évidemment que lorsque vous êtes propriétaire, déjà, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets de redistribution à l'intérieur de l'ensemble des ménages, bien sûr, parce qu'évidemment pour les primo-accédants, c'est plus cher qu'avant, alors que pour ceux qui ont déjà cette richesse, évidemment, il n'y a pas un effet d'appauvrissement. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, si vous êtes propriétaire d'un logement et que vous le revendez, évidemment, vous touchez une somme plus importante, mais si vous voulez en acheter un autre d'une qualité équivalente, il coûte plus cher aussi, et donc vous n'êtes pas plus riche, c'est-à-dire par rapport à la consommation, à votre consommation de services de logement, c'est juste que ça coûte plus cher de se loger, c'est tout. Mais le problème, c'est que comme les banques utilisent la valeur du logement comme un collatéral, c'est-à-dire comme garantie non seulement pour le crédit immobilier, mais aussi pour toutes sortes d'autres crédits, et notamment les crédits à la consommation, Eh bien, ça veut dire que généralement, les hausses de prix de l'immobilier dans les économies très bancarisées, dans lesquelles le crédit bancaire et notamment le crédit à la consommation est aisément accessible, eh bien, ces hausses de crédit de prix de l'immobilier vont engendrer des phénomènes de des épargnes et de surendettement. C'est-à-dire que comme chaque ménage individuellement se sent plus riche et que la banque qui prête le considère aussi comme étant plus riche, elle lui prête davantage. Et donc, il dépense plus, il s'endette plus, il épargne moins. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut dire aussi qu'au départ, on a une certaine alors sous-épargne dans les pays développés, et puis inversement sur-épargne dans les pays. Donc, et pour les entreprises, on pourrait faire à peu près le même raisonnement. Alors, tout ça nous entraîne dans une première phase dans laquelle les secteurs privés, on va dire, sont surendettés. Et donc, il va falloir qu'ils se désendettent. Et pour se désendetter, évidemment, il n'y a pas 50 solutions. Si vous êtes un ménage, se désendetter, ça veut dire épargner. Épargner, c'est-à-dire réduire en termes, réduire votre, augmenter votre taux d'épargne et donc réduire votre demande de consommation, donc la dépense. Et pour les entreprises, de la même façon, se désendetter, ça veut dire soit réduire l'investissement, soit essayer d'augmenter le revenu de l'entreprise, c'est-à-dire réduire les coûts. Réduire les coûts, c'est-à-dire réduire l'emploi ou réduire les coûts salariaux, baisser les salaires, etc., etc. Et donc, dans les deux cas, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises, évidemment, la voie du désendettement passe par une diminution de la demande. Et cette diminution de la demande, c'était justement celle dont Irving Fisher décrivait les effets cumulatifs, c'est-à-dire que le désir de désendettement des agents privés conduit à une baisse de la demande, qui elle-même conduit à une baisse des revenus, qui contrarie le désendettement et qui oblige à épargner davantage, etc., etc. Et c'est la spirale de la déflation et de la dépression telle qu'elle était décrite par Irving Fisher, telle qu'elle est aussi décrite d'une certaine manière par Keynes. On voit bien du coup que l'intervention des gouvernements nationaux, des pouvoirs publics en Europe et aux États-Unis notamment, mais pas seulement, en Chine aussi, je vous rappelle qu'en Chine il y a eu un plan de relance massif en 2009 qui a permis de contrer les effets de la récession qui commençait à se profiler dans le reste du monde et qui a d'ailleurs rééquilibré massivement l'économie chinoise, puisque si vous regardez aujourd'hui l'économie chinoise, vous savez que son excédent commercial a presque disparu et que donc ça veut dire que sa demande intérieure s'est accrue plus que la demande d'exportation et que donc on a eu ce fameux rééquilibrage que tout le monde souhaitait et qui a eu lieu effectivement. Donc, du point de vue des déséquilibres globaux, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. C'est pour ça que je viendrai dans la deuxième partie tout à l'heure pour dire que là, maintenant, la crise est vraiment européenne. Elle n'est plus tellement mondiale. Donc, voilà pour le désendettement. Alors, l'autre aspect évidemment très important qui concerne la crise dans son ensemble, c'est que ce surendettement se traduit par une fragilité des banques, évidemment, puisque une partie des crédits qu'elles ont accordés a toutes les chances de ne pas pouvoir être remboursés, ou en tout cas pas au niveau où elles l'attendaient. Donc il va y avoir des pertes sur les crédits. Alors ces pertes, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles ont été gérées, notamment de part et d'autre de l'Atlantique. Si on regarde, évidemment, il faut insister sur le fait que dans les économies développées contemporaines, contrairement à ce que prévoyaient certains analystes de la libéralisation financière dans les années 80-90, le rôle des banques n'a pas diminué. Vous vous souvenez sans doute qu'au début des années 80, on nous annonçait la désintermédiation et en quelque sorte, on pourrait presque dire la fin des banques, puisque les marchés financiers étaient capables de faire tout ce que faisaient les banques et finalement mieux que les banques. monde. Bon, la réalité nous a montré que non, qu'en réalité, non seulement les banques n'ont pas vu leur rôle diminuer, mais qu'au contraire, leur rôle s'est accru parce qu'elles ont su finalement tirer profit du développement des marchés financiers et s'insérer sur les marchés financiers, alors de différentes façons. D'une part parce qu'on a privatisé massivement. Hein, il ne faut quand même pas oublier que dans beaucoup de pays, les banques étaient publiques. En France, par exemple, jusqu'à la fin des années 80, la plupart des banques étaient publiques. Et donc, évidemment, elles ne jouaient pas un très grand rôle en tant que capitalisation boursière, si je puis dire. Aujourd'hui, si vous regardez le CAC 40, il y a presque plus d'un tiers du CAC 40 qui est en fait des banques, tout simplement. Donc, ce qui se passe sur les banques a un effet énorme sur la valorisation boursière. Ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre aspect, c'est que les banques ont développé toutes sortes de crédits. Alors, on a vu ici les crédits aux ménages et aux entreprises, mais surtout, et ce qui est beaucoup plus important, les banques ont développé massivement les crédits pour les transactions financières. C'est-à-dire qu'en fait, sur les marchés financiers, presque toutes les transactions qui sont faites sur les marchés financiers, les marchés boursiers et tous les différents marchés, sont des transactions qui sont faites à crédit et qui sont financées par du crédit bancaire. Et donc toutes les grandes banques sont massivement présentes sur ces marchés boursiers, soit directement parce qu'elles-mêmes gèrent un portefeuille, soit pour leur compte propre, soit pour le compte de leurs clients, soit indirectement parce qu'elles prêtent de l'argent aux gestionnaires de fonds. Et aux hedge funds, etc. Il y a un exemple qui illustre bien ça, c'est le cas de la crise de LTCM en 98. LTCM, donc c'était septembre 98, LTCM c'est Long Term Credit, Long Term Capital Management. C'était donc un hedge fund qui était spécialisé, spécialisé donc dans l'arbitrage sur les titres de dette publique en fait. Et en septembre 98, suite à des anomalies sur les évolutions des cours des titres publics sur les différentes places financières mondiales, LTCM a fait de mauvaises affaires et s'est trouvé en incapacité d'honorer ses dettes. Donc il était techniquement en faillite. Or, LTCM, au moment où il était en faillite, il a été déclaré, enfin, il n'a pas été déclaré, mais où on a constaté qu'il avait un actif net négatif, avait 200 milliards de dollars de dettes à l'égard des grandes banques. 200 milliards de dollars, c'est quand même, comme vous voyez, c'est la moitié de la dette de la Grèce, quand même. C'est à peu près la dette de l'Argentine au moment de la crise argentine. Donc, c'est énorme, évidemment. C'est énorme. Alors, en temps normal, évidemment, cette dette, c'est la dette de court terme qui est sans arrêt renouvelée, sans arrêt remboursée, etc., parce que les opérations vont à bon port. Mais il suffit qu'il y ait un petit grain de sable là-dedans pour qu'aussitôt, des montants colossaux de dette sur les marchés financiers ne puissent pas être remboursés dans des situations, dans des conditions convenables. Alors, aux États-Unis, cet ensemble de dettes a été très rapidement absorbé par la Banque fédérale américaine et par le Trésor. C'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on peut appeler un dispositif à la fois de prêt en dernier ressort et de ce qu'on pourrait appeler de recapitalisation. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que tous les actifs qu'on appelait toxiques ont été absorbés par la Banque centrale et par le Trésor américain. En Europe, on n'a pas fait ça. En Europe, on n'a pas fait ça. C'est-à-dire que finalement, on a préféré dire aux banques « gardez vos actifs toxiques, ça va s'arranger ». D'ailleurs, on ne les appelait pas toxiques puisqu'on pensait qu'ils n'étaient pas si toxiques que ça. On a dit « bon, ça va, il y a quelques mauvais mois à passer, donc vous pouvez… » On a assoupli les règles comptables, etc. Et puis, on leur a dit « bon, on va faciliter l'accès au crédit à la liquidité, à la BCE. » Donc bien avant, j'ai regardé la deuxième partie, mais bien avant les opérations que la BCE a conduites depuis quelques mois, on avait donc assoupli les conditions dans lesquelles les banques commerciales européennes pouvait emprunter de la liquidité auprès de la BCE, notamment en élargissant la liste de ce qu'on appelle les titres éligibles, c'est-à-dire les titres que la BCE accepte en dépôt, en pension, pour garantir donc ces prêts de liquidité aux banques commerciales. Donc on a procédé de manière finalement très différente de part et d'autre de l'Atlantique, et d'une certaine façon on voit aujourd'hui les conséquences de ces différences, comme lors des crises précédentes finalement. Ça, c'est quand même intéressant, c'est que aux États-Unis on a finalement utilisé, on pourrait dire, la chirurgie lourde, hein, c'est-à-dire on a carrément sorti des bilans tout ce qui était douteux, hein. C'est comme si on pratiquait, si vous voulez, une ablation, hein, ou quelque chose comme ça. Et puis, dans le même temps, on a pratiqué une politique monétaire avec un taux d'intérêt très bas. Hein, on a mis le taux d'intérêt à zéro pratiquement depuis le début de la crise, hein, c'est-à-dire depuis septembre 2008. En Europe, on a décidé ce qu'on appelle en anglais forbearance, c'est-à-dire d'attendre, de dire aux banques gardez vos trucs, attendez, attendons, ça va remonter. On a dit aux banques espagnoles, vous inquiétez pas, vous avez plein de crédits immobiliers pourris, mais le marché de l'immobilier va reprendre un jour, et quand il reprendra, ça ira mieux, etc. Alors, évidemment, le problème, c'est que ça ne reprend pas, bien sûr. Parce que c'est pas un mauvais pari si on est sûr que ça reprend, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut être sûr que ça reprend. Et là, en l'occurrence, maintenant, ça fait 4 ans que ça ne reprend pas. Et donc, il arrive un moment où les banques ne peuvent plus assurer ce portage. Bon. Donc, en Europe, on n'a pas massivement purgé les bilans des banques. Et en même temps, on a refusé aussi, pour des raisons, on va dire, doctrinaires, de mener la politique monétaire très accommodante qui a été menée aux États-Unis, puisqu'on n'a jamais baissé le taux d'intérêt en dessous de 1%, vous savez. On aurait pu, évidemment, aller plus bas, on ne l'a pas fait. Et donc, on a une situation qui, finalement, du point de vue des banques, est beaucoup moins assainie. Et ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé déjà en 2002-2003, c'est-à-dire après la crise de 2001 aux États-Unis, vous vous souvenez, les attentats du 11 septembre, il y a eu une récession, etc., etc. À la suite de la récession de 2001-2002, la Banque fédérale américaine avait déjà mené une politique très agressive de baisse des taux d'intérêt, etc., et de nettoyage des bilans, de rétablissement des bilans. Les banques américaines s'étaient rétablies très très vite, et s'étaient désendettées très très vite, et ceci a permis assez rapidement à l'économie américaine de redémarrer, et dans le même temps l'Europe, elle, avait pendant très longtemps maintenu des taux d'intérêt élevés, et ça avait prolongé en quelque sorte la période au cours de laquelle la croissance était restée très molle en Europe au début des années 2000. Et là, de la même façon, on retrouve exactement la même chose. Donc pour conclure sur cette première partie, je dirais que en termes de gestion des politiques, notamment en termes de gestion des secteurs bancaires et de la politique monétaire, on voit bien que cette crise, dont les origines sont finalement similaires des deux côtés, alors il y a des différences entre les pays européens et les autres, évidemment, mais il faut bien voir que la question du surendettement, c'est pas seulement une question de rapport au PIB, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un stock de dette très élevé, ou un stock de dette quel qu'il soit, hein. Le problème, c'est que lorsque la valeur de l'actif en face diminue du fait des répercussions de la crise financière, notamment du fait de la baisse des cours boursiers, hein, ou de la baisse des prix de l'immobilier dans certains pays, eh bien, un agent qui était initialement dans une situation de bilan relativement sain, c'est-à-dire un ratio d'endettement par rapport à la valeur de son actif relativement raisonnable, se retrouve surendetté puisque la valeur de son actif a baissé. Donc le fait qu'au départ le surendettement a été essentiellement anglo-saxon finalement joue peu dans la suite. Évidemment, la situation des secteurs surendettés dans les pays anglo-saxons est plus critique au départ que celle des pays, disons, d'Europe continentale. Mais les ménages et les entreprises endettées en Europe continentale vont aussi être en situation de surendettement parce que la valeur de leurs actifs a baissé. Soit l'actif immobilier, dans le cas de l'Espagne par exemple, ou l'Irlande, soit l'actif des entreprises, du fait de la baisse des cours boursiers, et puis aussi des perspectives de gains qui ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que la récession, évidemment, a réduit les perspectives de profit, etc. Et donc, un endettement qui pouvait paraître soutenable pour une entreprise avant la crise, ne l'est, étant donné ses perspectives de gains, ne l'est plus pendant la crise du fait justement de la révision à la baisse de ses perspectives de gains. Donc tout ça montre bien l'importance évidemment de ces effets de bilan et des effets cumulatifs que produisent justement les ajustements de bilan dans un sens comme dans l'autre. Et juste pour conclure cette première partie et avant d'ouvrir une première séance de questions, je voulais juste souligner qu'évidemment, dans la théorie macroéconomique standard, hein, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, que j'appelle newtonienne, si vous voulez, on a un gros problème avec ça. On a un gros problème avec ça parce que il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de secteur financier. Donc, si vous voulez, cette théorie-là, finalement, elle reste encore assez largement à élaborer et à construire. Il y a bien ici ou là des briques qui permettraient de construire cette théorie-là. Mais pour l'instant, il n'existe pas un corpus analytique cohérent, constitué, qui puisse prendre la place, si vous voulez, de ce qu'a été la macroéconomie keynésienne de la synthèse néoclassique dans les années 60, par exemple, ou de ce qu'a été la nouvelle macroéconomie classique dans les années 80-90. Et ça, c'est évidemment très, très embêtant parce que, je dirais, on ne sait pas faire. Et on ne sait pas faire parce que on a pris l'habitude depuis maintenant une quarantaine d'années, ou en tout cas une bonne trentaine d'années, dans la théorie macroéconomique, d'utiliser une hypothèse fort commode, mais qui en l'occurrence nous interdit complètement d'analyser ces aspects-là. Et cette hypothèse, c'est l'hypothèse de l'agent représentatif. Évidemment. Si un agent représentatif, il ne peut pas être endetté. C'est ça le problème, sauf s'il est endetté à l'égard du reste du monde. Mais si chaque économie est constituée d'un ensemble d'agents qui sont tous identiques, comment pourraient-ils s'endetter les uns par rapport aux autres? Il y a une espèce d'impossibilité dans les termes qui fait que... parce qu'on raisonne en net. Quand on est sur l'agent représentatif, quand on fait l'hypothèse qu'il y a un agent représentatif dans chaque économie, on raisonne en net et donc il n'y a pas de flux financier brut, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas. Si on arrive à mettre, déjà on n'arrive pas à mettre des banques là-dedans, puisqu'évidemment, ils n'ont pas vraiment besoin de monnaie, les agents représentatifs. Et à chaque fois qu'on met de la monnaie là-dedans, on est obligé de la mettre d'une manière complètement artificielle. Soit on met une contrainte d'encaisse préalable à la Clover, et ça c'est totalement ad hoc, soit on met la monnaie dans la fonction d'utilité de l'agent représentatif, et c'est tout aussi condamnable, même si Lucas a donné sa bénédiction à cette façon de faire. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de place pour la monnaie dans ces économies-là, puisque, comme le disait très joliment Tom Sargent, qui est, comme vous le savez, l'un des Nobel récents, qui est le Nobel donc en décembre dernier, Sargent, dans une conférence qu'il prononçait ici, à Paris, je veux dire, pas ici dans cet amphi, mais ici à la Sorbonne, il y a quelques années, commençait chacune de ses phrases par « Dans le monde communiste de Lucas, les agents, etc. etc. » Alors pourquoi ça? Parce que finalement, la macroéconomie construite sur les hypothèses d'agents représentatifs et d'anticipation rationnelle, c'est comme le communisme, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel tout le monde pense pareil et tout le monde agit de la même façon. Il n'y a pas l'hétérogénéité et la décentralisation qui sont justement les caractéristiques des économies de marché. Et c'est bien là où le bas blesse, c'est qu'on a une théorie macroéconomique qui, jusqu'à présent, n'a pas pu s'affranchir, finalement, de cette hypothèse de l'agent représentatif, parce qu'elle est très très commode, hein, finalement, mathématiquement, c'est la plus gérable, c'est simple, etc. Et puis ça permet surtout de faire ce qu'on a voulu faire depuis maintenant 40 ans, c'est-à-dire de fonder la théorie macroéconomique sur la théorie micro, hein, c'est-à-dire sur la maximisation, sur les hypothèses qu'on utilise habituellement dans la théorie micro. Et ça, on a réussi, mais on y a réussi au prix de cette grandiose simplification qui évacue finalement tous les problèmes de la macro, c'est-à-dire les problèmes de coordination, parce que si on a un agent représentatif, c'est difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas se coordonner avec lui-même. Les problèmes aussi de répartition, puisque comme il est représentatif, il ne peut pas être divers tout en étant un. Et donc il ne peut pas non plus, il ne peut pas y avoir des inégalités de revenus, de patrimoine, etc. Et puis il ne peut pas y avoir, donc, je le disais, d'opérations financières dignes de ce nom, et de bilan et de dettes brutes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment la plupart des agents qui sont endettés ont un actif net positif, bien sûr. Donc c'est pas, le problème, ce n'est pas qu'ils ne sont pas solvables. Le problème, c'est qu'ils ont une dette. Et que la valeur de cette dette rapportée à la valeur de leur actif varie dans le temps. Et c'est ça qui va influer sur leur comportement. Et ça, on n'est pas pour l'instant capable de mettre ça dans des modèles macro. Bon, j'arrête là pour cette première partie, après on passera dehors. Donc il reste un quart d'heure pour les questions.
Oui. L'abonné, qu'on n'a pas vu l'abonné dans le modèle macroéco, mais on n'a pas voulu voir cette création monétaire, cet endettement. Quand vous parlez de la période de la grande modération, vous dites qu'il n'y a pas eu d'inflation, parce qu'effectivement, la montée des piliers d'argent faisait que le prix des biens de consommation n'augmentait pas, mais l'inflation, elle était là, elle était dans le prix des actifs, elle était dans les indices boursiers, elle était dans les valeurs immobilières. Si on avait voulu l'avoir, on pouvait l'avoir. D'ailleurs, dans cette inégalité de revenus, de patrimoine, on la voyait au cours des années 80-90, on voyait ces inégalités de revenus s'accroître, et c'est bien que la monnaie allait se placer effectivement quelque part. Elle était à ce surendettement, c'est de la création monétaire. Donc effectivement, on n'a pas voulu voir qu'on était effectivement dans un problème monétaire, effectivement, parce que vous donnez la raison, parce que les modèles raisonnaient sur des bases microéco-économiques, la monnaie est neutre. Mais en réalité, ça ne faisait que crever les yeux. Enfin, il y a ceux qui ne voulaient pas voir.
Après coup, si vous voulez, on peut toujours dire que effectivement, ça crevait les yeux. Je vais montrer dans le cadre d'Europe qu'il y avait plein de choses qui se passaient bien avant la crise et qui crevaient les yeux, puisque tout le monde pouvait les voir, parce que je pouvais les voir, tout le monde pouvait les voir, mais que personne n'a regardé, tout simplement. C'est-à-dire le problème, si vous voulez, dans ces évolutions, c'est que généralement, la plupart de ces évolutions ne sont pas considérées comme des évolutions négatives, au contraire. Si vous voulez, le cas, comme vous savez, il y a un grand débat aux États-Unis et depuis un moment, et même bien avant la crise, et puis en Europe, on n'en parle pas trop, mais la Banque centrale y réfléchit quand même, qui concerne justement à la fois la mesure de l'inflation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce que la Banque centrale doit vraiment regarder, qu'est-ce qu'elle doit viser, et est-ce qu'elle doit notamment se préoccuper des évolutions des prix d'actifs, de l'immobilier ou des prix des actifs financiers. Ça fait longtemps déjà qu'aux États-Unis, on s'interroge sur ce point. Je vous rappelle que déjà en 1996, Greenspan, qui était le président de la Réserve fédérale américaine, à l'époque, avait parlé des exubérances irrationnelles de la bourse américaine pour caractériser les évolutions en 1996. Bon, il a eu tort. Alors, c'est intéressant de rappeler l'exemple justement de Greenspan en 1996, parce que il avait tort. C'est-à-dire que l'exubérance boursière de 96 n'était pas irrationnelle. C'est-à-dire qu'en 96 et dans les années qui ont suivi, il y a bien eu aux États-Unis une augmentation énorme des profits des entreprises qui justifiait pleinement que les cours boursiers soient orientés si fortement à la hausse dans ces années-là. Ça renvoie au fameux paradoxe de Solow, que vous connaissez, qui est, Solow disait en 87, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres de productivité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais ça ne se traduit pas par une plus grande productivité. Et simplement, il avait parlé trop vite, il faut du temps pour que... une évolution comme la révolution technologique de l'information et des nouvelles communications se traduisent par une augmentation de productivité. Or, justement, 10 ans après, c'est-à-dire pendant la période Clinton, en effet, il y a eu une accélération de la croissance américaine, une accélération de la productivité, etc., qui est probablement très largement le fruit de la diffusion et de la meilleure maîtrise des nouvelles technologies. Bon. Donc, les cours boursiers ont augmenté pour de bonnes raisons. Et le problème qu'on a dans ces cas-là, et c'est la même chose d'une certaine façon pour l'immobilier, si vous voulez, c'est que la Banque centrale n'est pas forcément en mesure, au moment où les évolutions se produisent, de distinguer ce qui relève ce qu'on pourrait appeler du bulle spéculatif, c'est-à-dire une augmentation exubérante, irrationnelle et excessive par rapport à l'évolution des fondamentaux, de ce qui est une augmentation justifiée. Regardez ce qui se passe sur le marché immobilier parisien, par exemple. Est-ce que c'est une bulle spéculative ? Il y a peut-être un peu, mais il y a quand même quelque chose qui est assez clair, qui est qu'à Paris, l'offre de logement et l'offre foncière de Paris intramuros est en quantité limitée, et que face à ça, vous avez une demande solvable en croissance très forte, qui est en fait mondiale désormais. Donc tout le monde veut acheter du foncier à Paris, et du coup, évidemment, le prix du foncier à Paris augmente de manière démesurée. Tout ça peut être expliqué assez facilement par l'évolution des fondamentaux et sans avoir recours à une idée de bulle immobilière qui, à mon avis, n'est pas vraiment avérée dans le cas parisien. Donc dans ces deux cas-là, on a un problème pour la Banque centrale a un problème pour identifier la nature des mouvements. Et c'est ça qui rend ce genre de diagnostic délicat, d'une part, et puis d'autre part, le problème aussi, c'est que si vous voulez, il y a un problème qu'on pourrait appeler d'économie politique, c'est-à-dire qu'en fait, et de légitimité, c'est-à-dire que la Banque centrale, lorsque son rôle se cantonne à assurer la stabilité des prix à la consommation, c'est le cas de la BCE, par exemple, eh bien, on peut dire qu'elle a une légitimité indiscutable, parce que finalement, assurer la stabilité des prix à la consommation, c'est assurer la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie. Et ça, ce que Trichet disait il y a quelques mois encore, avant de quitter son poste, quand il disait « le meilleur défenseur du pouvoir d'achat, c'est moi ». C'est-à-dire, oui, c'est lui, on peut le dire. Le défenseur de la veuve et de l'orphelin, du retraité et du smicard, c'est le gouverneur de la Banque centrale lorsqu'il assure une inflation aussi faible que possible. Alors que si la Banque centrale commençait à se mêler de modérer les hausses de prix de l'immobilier ou de modérer les hausses de prix des actifs financiers, là, on pourrait dire que sa légitimité est beaucoup plus douteuse, parce qu'après tout, les gens qui bénéficient de ces hausses de prix, ils sont contents, parce qu'ils s'enrichissent. Donc si vous allez dire aux propriétaires d'immobilier que non, il ne faut pas que la hausse de l'immobilier se poursuive, ils ne vont pas être amis, évidemment. Et si vous dites aux détenteurs d'actions que non, il ne faut pas que les cours des actions continuent à augmenter, à mon avis, ils ne vont pas être très contents non plus. Donc, vous voyez qu'on est, on est dans un domaine où c'est beaucoup moins clair du point de vue de l'économie politique. Parce que là, il y a des effets beaucoup plus clairement distributifs, quoi, en termes de répartition de richesses. Donc, oui, on voit ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'on a aussi beaucoup accusé Greenspan, évidemment. Et on pourrait dire encore la même chose cette fois-ci. C'est-à-dire, on pourrait dire, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est qu'ils sont en train de nourrir la prochaine crise. Puisqu'après tout, ils ont, la Banque centrale notamment, la manière dont elle a géré cette crise-là, en injectant massivement à nouveau de la liquidité dans l'économie américaine et mondiale, ça a fait remonter les cours boursiers, etc., etc., et ça pourrait nourrir la prochaine bulle. Peut-être même d'ailleurs qu'on y est déjà. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que la gestion macroéconomique des économies financiarisées est elle-même génératrice d'un surcroît d'instabilité par rapport à celle que j'ai décrite tout à l'heure et qui est déjà une instabilité endogène. Donc ça veut dire que bon, il n'y a pas de salut possible, hein. C'est-à-dire c'est forcé, on est condamné finalement à cette succession d'emballement et de récession. Sauf si on change la réglementation et le cadre dans lequel tout ça s'opère. C'est pour ça qu'il y a eu quand même des changements dans la réglementation. Aux États-Unis, on a quand même adopté la nouvelle réglementation Dodd-Frank, dans laquelle on a fait un certain nombre de changements structurels, on va dire. Est-ce que ça suffit? Ça, c'est bien triste pas. Je reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie sur la question du marché des CDS, par exemple, tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Autre question?
Oui, vous avez évoqué la question du surendettement.
Ouais.
Une autre variable possible était le taux de change. Pourquoi y a-t-il une difficulté en Europe à instaurer une politique de change et quels en ont été les impacts?
Alors, là c'est un peu compliqué parce que je pense que les deux questions sont quand même distinctes. C'est-à-dire, je ne pense pas que la gestion du taux de change ait pu permettre dans la crise de sortir des difficultés. Ne serait-ce que parce que si on avait cherché à déprécier l'euro, évidemment ça aurait aggravé les difficultés de l'économie américaine qui elle-même du coup aurait probablement réagi en dépréciant la monnaie américaine. Donc il n'y avait à mon avis pas d'issue, c'est comme dans les années 30 si vous voulez. Les dévaluations compétitives dans les années 30 n'ont fait qu'aggraver la situation et dans la crise depuis 2008, je pense que si on avait eu une guerre des monnaies comme on l'a évoqué à un certain moment, ça n'aurait fait qu'aggraver les choses. Alors, donc voilà pour la partie, disons, sur la crise. Maintenant, d'une manière plus générale, la difficulté qu'a la zone euro à mener une politique de change, elle est liée d'abord au statut de la Banque centrale et puis d'autre part à l'hétérogénéité de la zone euro qui elle-même engendre une divergence d'intérêt entre les membres de la zone euro. C'est-à-dire que donc les statuts de la Banque centrale, c'est que, comme vous le savez, dans le traité de Maastricht, il était prévu que la politique, qu'il puisse y avoir une politique de change, et que cette politique de change soit une compétence du Conseil, mais en 99-2000, au moment du lancement de l'euro, le Conseil a refusé de se saisir de cette politique, de cette compétence, parce que justement il y avait des divergences trop fortes entre. C'était Strauss-Kahn qui était ministre des Finances en France, hein, donc il y a eu des débats au sein du Conseil là-dessus. Les divergences entre les membres de la zone euro étaient trop importantes pour que le Conseil souhaite bénéficier de cette compétence. Et donc en pratique, on l'a abandonné, on l'a délégué à la BCE. J'ai écrit il y a quelques années un article qui s'appelait le hold-up tranquille de la BCE sur la politique de change. Donc oui, voilà, la BCE, faute de combattants finalement, Mais en fait, elle ne s'en est pas servie, sauf dans quelques épisodes très précis, notamment à la fin de l'année 2000, lorsque elle a jugé que la dépréciation de l'euro par rapport au dollar était trop forte, et que donc elle a souhaité faire remonter le taux de change de l'euro. Ça n'a pas très bien marché, comme vous savez, donc depuis, elle a considéré que ma foi, elle n'avait pas la capacité de le faire, et qu'elle n'avait pas, la volonté politique de le faire, donc il valait mieux pas le faire. Alors, ce qu'on verra dans la partie suivante, c'est qu'évidemment, étant donné l'hétérogénéité des pays de la zone euro, et notamment l'hétérogénéité en termes de compétitivité et en termes d'exposition au commerce extérieur hors zone euro, le maniement du taux de change externe de l'euro est quelque chose de pas du tout évident. Et si on ajoute à ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, l'objectif de faible inflation, l'objectif de ce qu'on appelle parfois une monnaie forte, c'est-à-dire un taux de change relativement élevé, on va dire courbe de change, puisque il faut rester cohérent avec ce qu'on a écrit dans le programme. Le fait d'avoir un cours de change relativement élevé fait que le pouvoir d'achat extérieur de la monnaie est élevé. Et ça, c'est quand même quelque chose que la Banque Centrale Européenne ne se prive pas de souligner. Lorsque les prix du pétrole augmentent, par exemple, eh bien, si l'euro s'apprécie, les répercussions internes des augmentations de prix du pétrole sont amoindries, voire annulées. On voit bien qu'en ce moment, par exemple, pourquoi l'essence augmente. D'une part, parce que le prix du pétrole augmente, mais c'est aussi parce que l'euro s'est affaibli par rapport au dollar. Et que donc, évidemment, ça a des effets sur le pouvoir d'achat, et ça, tout le monde le constate. Donc, la dépréciation de la monnaie dans des économies très ouvertes, et évidemment, ça peut être souhaitable du point de vue de la compétitivité, mais en contrepartie, eh bien, vous avez un effet pouvoir d'achat, qui n'est pas forcément quelque chose que souhaitent les ménages en général. Oui.
Pourquoi une telle différence dans la gestion de la crise bancaire entre les États-Unis et l'Europe? Et une deuxième question, c'est que font les banques centrales des titres toxiques une fois qu'elles ont pris en pension?
Alors, pourquoi une telle différence? Alors ça, je ne sais pas, à vrai dire. Je pense qu'il y a, il y a des facteurs qu'on peut mettre en évidence. Il y a une première différence, évidemment, qui est le mandat, tout simplement. Je pense que le mandat des banques centrales est fort différent. Aux États-Unis, on a, notamment depuis l'Employment Act de 1946 et renforcé par la réforme des années 70, on a une banque centrale dont le mandat met sur un pied d'égalité les différents objectifs, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine a pour mandat la croissance, le plein emploi et la stabilité des prix dans le reste de l'équilibre extérieur. Voilà, c'est le mandat que lui assigne le législateur, et à elle de gérer au mieux et de hiérarchiser ses objectifs en fonction des évolutions de la conjoncture et en fonction de ce qu'elle considère comme la meilleure manière de faire tout ça. Alors qu'en Europe, on a un mandat qui est un mandat qu'on appelle lexicographique, c'est-à-dire un mandat dans lequel on a dit à la Banque centrale, votre objectif prioritaire, c'est la stabilité monétaire. Et puis, dans la mesure où ça ne met pas en péril la poursuite de la stabilité monétaire, vous mettrez en œuvre les politiques qui soutiendront les politiques de l'Union, etc. Donc, ça, déjà, il y a une grosse différence. À ça s'ajoute un deuxième aspect, toujours dans les statuts des banques centrales, qui est ce qu'on appelle, alors c'est difficile à traduire en français, c'est en anglais on dit accountability, c'est-à-dire il n'y a pas de bon mot pour ça. C'est l'obligation de rendre des comptes. Donc on est obligé d'utiliser une périphrase en français, vraiment. Parce qu'on ne peut pas dire la responsabilité, parce que ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. C'est donc l'obligation de rendre des comptes. Et là, il y a une grosse différence aussi. C'est-à-dire que dans le cas de la Banque centrale américaine, le Congrès, et notamment le Sénat américain, a le pouvoir demander au gouverneur de la Banque centrale de rendre des comptes, de s'expliquer sur ses choix. Et il peut l'obliger à justifier ses choix. Et ce pouvoir n'est pas un pouvoir fictif dans la mesure où, justement, le Congrès et notamment le Sénat ont le pouvoir aux États-Unis de modifier les statuts de la Banque centrale. Et donc, il y a une menace crédible, c'est-à-dire le Sénat dit au gouverneur de la Banque centrale américaine, bon, maintenant, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ça, et si on n'est pas d'accord avec vous, bah, on peut changer le statut, c'est-à-dire on peut modifier le mandat. Alors qu'en Europe, il n'y a aucune obligation de ce genre pour la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne est juste tenue très formellement d'aller s'expliquer devant le Parlement Européen une fois de temps en temps, je pense une fois, peut-être même une fois par mois, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais enfin, tout ça est complètement absurde et formel. C'est un jeu de rôle, c'est-à-dire que le gouverneur se rend à Strasbourg, devant le comité économique et monétaire du Parlement européen, et puis il raconte ce qu'il a fait, puis après il s'en va. Et puis c'est tout, puis il ne se passe rien. Parce que de toute façon, le Parlement européen n'a aucun pouvoir sur lui. Pourquoi se donnerait-il la peine de justifier ses choix, etc. Il n'y a pas besoin. Aux États-Unis, c'est violent. C'est-à-dire, aux États-Unis, le Congrès a un vrai pouvoir de pression sur les choix de politique monétaire américains. Lorsqu'en 82, par exemple, à l'été 82, au moment de la crise mexicaine, alors que Volcker était en pleine politique de lutte contre l'inflation avec des taux d'intérêt extraordinairement élevés, etc., et que les États-Unis étaient en train de plonger dans la récession, la grande récession Reagan de 82, le taux de chômage était en train d'augmenter, et en août 82, survient le moratoire mexicain sur la dette mexicaine, donc par le gouvernement mexicain. Et à ce moment-là, le Congrès américain a convoqué Volcker en lui disant bon, « Maintenant, mon petit gars, t'arrêtes. Tu arrêtes immédiatement. » Parce qu'il y avait des élections de mi-mandat 2 mois plus tard. Les mecs savaient que le chômage était en train d'augmenter dangereusement et que si ça continuait, ils n'allaient pas être réélus. Et ils lui ont dit « Bon, maintenant, ça suffit, quoi. C'est bien, c'est bon. Tu arrêtes. » Et il a arrêté, c'est-à-dire il n'a pas dit « Ah !» Il n'a pas dit oui, oui, mais je le ferai, mais après, mais à condition que, etc. Non, il a dit ok, la politique monétaire a été immédiatement assouplie. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a des différences tout à fait considérables dans la manière dont fonctionnent les institutions, dans la gouvernance justement des institutions. Et la tradition américaine qu'on appelle en anglais checks and balances, c'est-à-dire pouvoir et contre-pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement important aux États-Unis. Mais en Europe, on n'a pas cette culture-là, on n'a pas cette tradition-là. Déjà aux États-Unis, c'est pas arrivé en un jour non plus, hein. Il en a fallu du temps. Dans la Grande Dépression des années 30, la Banque de la Réserve fédérale américaine en a fait des bêtises. Hein. Beaucoup aussi. Hein. Bon, donc, elle a appris de ses erreurs. Hein. Il y a une conférence de Mervyn King, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est tout à fait intéressante de ce point de vue-là. C'est une conférence qu'il a prononcée en 2004, dans laquelle il disait... il ne faut surtout pas trop contraindre la Banque centrale dans les choix de politique monétaire parce que si on met en place des mandats trop contraignants, ça va interdire aux banquiers centraux d'apprendre de leurs erreurs, hein, de tirer les leçons de leurs erreurs. Et il est bien vrai que si on met des règles trop contraignantes, on pourrait même, si on veut, complètement supprimer les banques centrales, après tout, et remplacer par une espèce de petit ordinateur qui, dès que le taux d'inflation dépasse 2%, fait remonter le taux d'intérêt, et dès qu'il est en dessous de 2%, fait baisser le taux d'intérêt. Ça suffirait peut-être. Mais on voit bien que non, en fait, justement. Donc ça, c'est une condition. Après, y a aussi des différences qui tiennent aux personnalités. On a bien vu qu'aux États-Unis, Bernanke est lui-même un professeur d'économie, d'ailleurs, spécialiste des banques, d'ailleurs, justement, et du credit crunch, qui a été toute sa... et aussi de la Grande Dépression. Donc le type avait vraiment une sensibilité, sans doute intellectuelle, plus forte au danger des crises bancaires, que ça n'était le cas en Europe à l'époque. Et puis, bah, il y a les relations entre les banques et le pouvoir politique, qui sont aussi très différentes de part et d'autre de l'Atlantique, je pense, quand même. Même si Goldman Sachs est très présent des deux côtés, comme chacun sait. Mais bon.